Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans le journal des auditeurs, votre espace d'expression sur l'actualité sur la radio panafricaine. Aujourd'hui, mardi, dans le JDA, nous lançons le débat sur le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. L'accusation n'est pas nouvelle, hein, régulièrement. La Guinée-Bissau, par exemple, est présentée comme un narco-État, mais un article du site Vice est venu relancer le débat. La région serait devenue donc incontournable pour acheminer la poudre blanche de l'Amérique vers l'Europe. Mais pire, au-delà d'une zone de transit, l'Afrique de l'Ouest deviendrait également une zone de consommation. Alors, les gouvernements ouest-africains agissent-ils suffisamment selon vous pour lutter contre le trafic de drogue? Pour participer, composez le 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. Nous attendons notamment vos témoignages, mais comme de coutume, nous ouvrons cette émission avec vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, allô, bonjour Africa Radio. Alors, je voulais laisser ce message parce que je n'ai pas été pris en ligne tout à l'heure en ce qui concerne la situation de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la candidature de Henri Konan Bédié. Alors, j'ai écouté les uns et les autres, j'ai écouté Bakis, j'ai écouté plein de personnes qui ont fait tellement l'éloge même d'Henri Konan Bédié, mais je me demande même si réellement eux, ils connaissent Henri Konan Bédié. Hein? Si, comment est-ce qu'on peut considérer Henri Konan Bédié comme étant le plus meilleur, le grand même, le meilleur même que Alassane Ouattara aujourd'hui? Ben, ça m'étonne. Hein? Henri Konan Bédié, déjà, avec son âge aujourd'hui, la sagesse veut qu'il ne soit pas candidat. Oui, d'accord. Mais si le PDCI décide autrement, il n'y a pas de problème. Pour moi, hein, c'est la démocratie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais ce qu'on doit vous dire, c'est que Henri Konan Bédié a été chef d'État. Et nous avons vu sa gestion. Nous avons vu sa gestion. Pourquoi est-ce qu'il a été débarqué de l'arène du pouvoir en 1999? Ben oui, parce qu'il avait eu de mauvaises gestions. C'est pour ça qu'il est sorti. Vous voyez? Donc c'est très simple. C'est très simple. Je préfère la surfacturation des ponts et des travaux qui se passent en Côte d'Ivoire et que les travaux soient faits que de ne rien faire. Je préfère ça, Makis.
Bonjour, Africa Radio. Je voudrais parler sur la candidature de Bédié, Henri Konan Bédié. Je pense qu'il y a certaines personnes qui parlent. Ils n'ont qu'à se renseigner sur la Cour constitutionnelle ivoirienne. C'est très important. Je pense qu'il y a des gens qui sont déconnectés. Si la Cour constitutionnelle permet à M. Bédié de se présenter, il se présente. Maintenant, le choix, c'est à lui. S'il veut, il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Mais il y a certaines personnes qui parlent, il ne doit pas se présenter. Ce n'est pas votre devoir, réellement. C'est la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que c'est une Cour constitutionnelle? Renseignez-vous sur la Cour constitutionnelle ivoirienne. Renseignez-vous. Merci. Au revoir.
Bon, toujours chez moi, je voulais parler des militaires maliens qui nous avaient honte dans le nord du Mali. Moi, je pense que si vous voulez venger quelqu'un, ce n'est pas comme ça que vous devez faire, puisque Amadou Koufa, il est peuple, mais ce n'est pas tous les peuples qui sont avec lui. Si vous voulez massacrer une autre ethnie, pourquoi vous n'allez pas massacrer les Touaregs aussi qui sont avec Yad Agali? C'est lui le numéro un des ennemis du Mali. Où vous êtes incapable de tuer un seul Touareg qui nous a mis dans les problèmes dans le pays. 90% de notre problème, ce n'est pas le problème des rebelles, c'est le problème des races. Puisqu'elles sont la peau blanche, je ne veux pas qu'elles soient gouvernées par nous.
Allô, bonjour Africa Radio, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Stéphanie Hartmann. C'est M. Touré. Ben, moi, j'appelais juste pour intervenir par rapport au procès de M. Lamine Diack, l'ancien président de l'IAF, de l'Organisation internationale de l'athlétisme, dont le procès a été ouvert hier. Ce que je dénonce, c'est surtout le refus catégorique du juge qui a refusé de reporter le procès. Alors que les avocats, une partie des avocats de M. Diack sont restés bloqués à Dakar. Donc, comment on peut prétendre à une justice équitable si... La personne jugée n'a même pas droit à la défense comme il se doit. Donc, moi, j'ai dénoncé cet état de fait. Et dire aussi que parallèlement, on a vu Platini et Blatter qui sont pratiquement dans les mêmes cas, qui ont détourné des fonds de la FIFA ou autre. Et pourtant, personne ne les poursuit. Ils ne sont pas poursuivis. On a l'impression que les élites africaines, tout le temps, c'est eux qui sont poursuivis. Pourquoi nos élites, tout le temps, sont poursuivies? Aujourd'hui, avec la CPI, Bush comme Sarkozy peuvent être poursuivis, mais personne ne les poursuit. Ils ne sont pas poursuivis. Donc, ça ne pas, on ne comprend plus cette situation avec les Noirs.
Bonjour, Africa Radio. J'exhorte les communautés africaines à sortir massivement participer aux manifestations autorisées. Je dis bien aux manifestations autorisées, afin que notre voix porte le plus haut possible. Nous devons sortir et faire comprendre à nos présidents africains que leur silence est aussi coupable que le racisme qui nous tue hors d'Afrique, que leur complaisance avec le système colonialiste qui a survécu au lendemain des indépendances, justement à cause des trahisons fratricides qui ont eu lieu au Ghana avec Kwame Nkrumah, qui ont eu lieu au Burkina Faso avec Sankara, nous payons encore le prix de cette trahison. Aujourd'hui, à cause de cette trahison, l'homme noir ne vaut plus rien. Vous voyez bien, vous aussi. Nous devons sortir pour dénoncer ces contrats sulfureux qui ont été signés en Côte d'Ivoire, avec le silence étonnant du Sénégal, ces contrats qui nous maintiennent la tête sous l'eau. Le seul qui a été capable de défendre le peu de dignité qui nous reste, c'est le président béninois. Malheureusement, il était le seul. Nous devons sortir leur faire comprendre que des Sankara reviennent par millions et que nous n'allons plus accepter des dignités octroyées, mais plutôt nous allons les arracher. Je vous remercie.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Petit correctif, j'ai donné quelques années supplémentaires hier au Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. J'avais déclaré qu'il avait un peu plus de 70 ans. Il a plutôt 61 ans. Voilà, toutes mes excuses pour cette erreur. Aujourd'hui, dans le JDA, on lance le débat sur le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. L'article un peu racoleur, a fait réagir. Le site Vice a publié une série d'articles sur le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest intitulé « Comment votre conso de coke, je cite, fout la merde en Afrique de l'Ouest ». Vous remarquerez que le titre s'adresse principalement à des consommateurs en Occident. Alors l'occasion quand même de parler de ce trafic de drogue, puisque l'ONU accusait récemment les groupes armés dans le nord du Mali, signataires de l'accord d'Alger, d'avoir des liens avec les trafiquants de drogue. Autrefois zone de transit, l'Afrique de l'Ouest est-elle devenue aussi une zone de consommation? Vos avis, vos témoignages nous intéressent. 33 1 55 07 58 00. Et nous ouvrons ce débat avec Alexandre. Alexandre, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Alexandre, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous êtes du Merci. Côté du Royaume-Uni, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis dans le sud-ouest de l'Angleterre et je suis d'origine ivoirienne. Et j'aimerais intervenir sur ce sujet.
Bien sûr. Alors, vous avez lu l'article qui a fait. Alors, je précise
oui,
d'ailleurs.
Oui.
Donc, alors, je vais le mettre en contexte. Donc, dans le troisième article, le Ahmed de Bakayoko, ministre de la Défense et Premier ministre par intérim de Côte d'Ivoire, est désigné comme l'un des plus, je cite, l'un des plus grands trafiquants de drogue en Côte d'Ivoire. C'est des témoignages, c'est pas prouvé. Et d'ailleurs, Ahmed Bakayoko a annoncé hier porter plainte pour diffamation contre ces deux journalistes. Voilà. Ah, c'est à vous, Alexandre.
Ok, d'accord. Bon, je sais qu'il y a une réalité en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire, où je suis originaire. J'ai eu l'occasion de voir de mes yeux cette chose qui s'y passe.
C'est-à-dire ?
Je suis pas pour le fait qu'on accuse quelqu'un sans preuve. Ça, je n'en ai aucune. Je n'ai pas la véracité de ces affirmations. Mais je sais que la drogue est quelque chose de très présente en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est consommée par tout le monde. J'ai été touché personnellement parce que j'ai des amis qui ont des enfants qui sont impliqués dans la drogue. On le voit pratiquement dans les quartiers maintenant, dans les sous-quartiers. J'étais surpris surtout de savoir que c'est plus du cannabis qui est consommé en Côte d'Ivoire, mais c'est surtout de l'héroïne et de la cocaïne et du crack.
Ouais.
Et je pense que c'est un fléau qui risque de dévaster notre jeunesse et éventuellement qui va faire que dans quelques années, on va avoir beaucoup de difficultés.
On connaît les ravages du crack qui est un dérivé hein, de la cocaïne. Et justement, dans sa série d'articles, hein, le site Vice évoque hein, tous les fumoirs qui se trouvent à Abidjan, des fumoirs, alors c'est finalement des jeunes, des endroits où des jeunes hein, viennent fumer du crack, si j'ai bien compris. Alexandre, vous aviez connaissance, vous, de ce type d'endroit ?
Bien sûr, c'est connu à Abidjan, c'est dans les sous-quartiers, c'est dans pratiquement les, partout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pas loin des écoles, on a des étudiants, des élèves qui fréquentent ces fumoirs. C'est devenu comme des lieux de consommation ouverts. Et le drame est que les autorités les connaissent. Mmh. Et c'est dommage que, par exemple, il y a des interventions de police, mais c'est surtout des interventions de police, pas pour stopper le fléau, mais pour inquiéter plutôt les consommateurs et leurs familles. Et ce que j'aimerais surtout dire aussi est que aujourd'hui, dans le fait qu'il y a la drogue disponible en Côte d'Ivoire, il y a la corruption de nos autorités, surtout au niveau de la douane. Parce que je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, la douane n'est pas assez pointue pour éventuellement endiguer le fléau de la drogue. On sait que le problème de la drogue est un problème difficile, une lutte difficile. On a vu aux États-Unis qui ont les moyens, mais bon, qui n'arrivent pas à l'endiguer. Alors, que dira-t-on de nos petits pays ? Mais je pense qu'à la complicité de nos autorités, de certaines personnes, de certains fonctionnaires des douanes ou de la police ou même de l'administration qui ferment les yeux sur certaines choses, et surtout un peu de nos parents eux-mêmes qui voient un peu ce qui se passe dans les quartiers, mais qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus.
Il y a une sorte d'impunité. Ce problème-là n'est pas pris en compte par les autorités, vous dites, Alexandre.
Non, voilà. C'est dommage. Moi, j'entends qu'on fait beaucoup de débats au niveau de la présidentielle en Côte d'Ivoire, au niveau de qui va nous gouverner, mais c'est de petits débats qu'on occulte, mais qui, en fait, participent au développement d'un pays. C'est vrai, on parle de la présidence, de qui va être Henri Konan Bédié, ou Alassane Ouattara, ou Soro Guillaume, ou peu importe. Mais je pense qu'on se focalise sur ces problèmes de gouvernance, mais on oublie qu'en dessous, c'est la société est en train de se détruire. Moi, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, nos jeunes, pratiquement notre jeunesse, ce qui fait la force aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, cette jeunesse, ça se détruit par la complicité de certaines personnes qui ne voient que le gain, en fait. Qui ne voient que le gain.
C'est très clair. Voilà. Merci à Alexandre d'avoir lancé le débat. On a bien compris hein, pour vous, hein, il y avait une vraie réalité hein, de la consommation de drogue en plus du trafic, hein, notamment en Côte d'Ivoire. Hein,
en Côte d'Ivoire, oui.
Vous dénoncez également hein, la corruption hein, de certains fonctionnaires. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir ouvert ce débat. Bonne journée hein, du côté du Royaume-Uni. Alors, je n'ai pas les chiffres hein, pour le port d'Abidjan, mais récemment, il y a quelques mois, hein, certains hein, s'inquiétaient que le port de Dakar soit lui hein, devenu hein, une zone de trafic hein, de drogue hein, c'est écrit trafic de drogue au Sénégal. Le marché florissant de la cocaïne passe désormais par Dakar hein, selon hein, les observateurs. Les saisies hein, se sont multipliées depuis juin 2019 dans le port de Dakar hein. Il faut savoir que par exemple début juillet 2019 les douanes sénégalaises ont saisi près de 800 kilos de cocaïne en provenance du Brésil. Au mois de décembre, les douanes sénégalaises ont brûlé à peu près une tonne de cocaïne. C'est ce qui avait été saisi dans les trois dernières semaines. Faut-il s'inquiéter hein, de ce trafic florissant? Namori, bonjour. Merci de votre patience, Namori. Bonjour.
Bonjour, Stéphane.
Bonjour, Namori. Alors, je vais vous demander d'enlever votre kit main libre si vous en avez un. Je sens que vous êtes un peu loin. Vous, Namori, vous voulez surtout hein, réagir à ce name dropping, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, au fait que le nom hein, d'Ahmed Bakayoko ait été voilà, balancé comme ça en pâture dans ses articles. Pour vous, oui. Ce sont des règlements de compte politiques.
Ouais. Comment dirais-je, c'est les opposants qui sont derrière ça. C'est du Soro. Ça, c'est stratégie de Soro, ça.
Bon, je ne suis pas sûr que Soro ait beaucoup de contacts chez Vice, mais bon. Il faut savoir hein, que l'enquête a été rédigée par deux... L'enquête, alors, si on peut appeler ça une enquête. Oui. En tout cas, ce sont deux journalistes, un Nigérian et un Belge, hein, qui ont passé comme ça quelques mois à Abidjan. Apparemment, c'était plutôt en août 2019, puisqu'ils évoquent hein, à la fin de l'article la mort d'Arafat.
Avec l'argent, madame, on sait tout faire.
Bon. Voilà, merci Namori de votre contribution.
Comment ?
Merci Namori de votre contribution.
J'ai pas fini, madame.
Ah bon, pardon. Allez-y.
Voilà, j'ai pas fini, voilà. Parce que en faisant ça, il va mouiller les
Si je peux me permettre, Namori, parce que vous dites que ce sont des accusations sans fondement, et vous-même vous accusez, vous l'avez cité, hein, Guillaume Soro, d'être à l'origine, voilà, de cet article.
Mais c'est pas sa première fois, c'est les mêmes.
Oui, mais du coup, vous accusez sans preuve aussi, non ? Non, mais du coup, vous accusez sans preuve aussi.
Oui.
C'est ça que je veux dire.
Pourquoi j'ai dit ça ? Écoutez-moi. Oui. Les mêmes là qu'ils ont dit, c'est Ahmed Bakayoko qui a tué Didier Arafat. Voilà, c'est pas eux qu'ils ont dit ça. Après, ils sont allés, comment on appelle, déteindre Didier Arafat. C'est le même groupe, c'est même système là.
Ouais,
moi c'est le même système. Bon.
Merci beaucoup, Namori, de votre contribution précieuse, excellente journée. Hein, Namori, qui voulait souligner l'aspect politique. C'est vrai que Ahmed Bakayoko lui-même, dans son communiqué publié hier soir, dans lequel il annonce porter plainte pour diffamation, sous-entend qu'il s'agirait de cabale politique. Restons peut-être sur le trafic de drogue. Yaya, bonjour. Et la consommation. Yaya, bonjour, vous êtes là ?
Oui.
Salut Yaya.
Oui, je suis là, madame.
Pardon, bonjour Yaya.
Bonjour madame.
Bienvenue dans le JDA Yaya. Oui. On a un auditeur tout à l'heure, Alexandre, qui voilà, évoquait tous ces fumoirs, oui. ces jeunes qui prennent du crack à Abidjan, le fait que la drogue voilà, est de plus en plus consommée par les jeunes. Vous avez fait ce constat, vous aussi ?
Oui, dans tous les couloirs, dans les quartiers, surtout dans les bas quartiers. Tout c'est des fumoirs partout. Bon, c'est pourquoi j'ai dit ici, dans mes commentaires, j'ai dit. Ceux qui sont censés éradiquer, mais eux ne sont plus corrompus que les délinquants qui sont dans les quartiers. Donc, comment on va pouvoir éradiquer cet phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans tous nos quartiers?
Vous dites finalement, on a bien compris. Vous dites finalement, les élites sont plus corrompues que ces jeunes qui prennent de la drogue, c'est ce que si j'ai bien compris, Yaya.
Oui, mais puisque on nous fait souvent des prises spectaculaires, on nous montre souvent à la télé pour dire oui, nous avons. Mais quand on regarde dans nos quartiers aussi, la musique, ça ne fait que vous montrer. Bon, je me demande ce qu'ils prennent, ça va où?
Effectivement.
Pourquoi je me pose la question réellement. Si c'est des plaisanteries ou bien s'ils sont du sérieux. Parce que dans tous nos quartiers, je dis bien, tous les quartiers d'Abidjan, il y a des petits délinquants qui sont partout, partout, je le dis et je le confirme.
Est-ce que le gouvernement, les autorités, voire même des associations, mettent en place des campagnes de prévention, d'aide aux toxicomanes ? Est-ce que ce problème est pris en compte ?
C'est vraiment difficile, ce point-là, je ne peux pas m'engager sur le terrain parce que je ne connais pas. Dans ce domaine, mais ce qu'on voit, c'est les policiers qui viennent de temps en temps dans les quartiers. On nous dit que bon, ils sont venus pour des petits délinquants, mais ils prennent des gens, puis maintenant, des jours après, vous les retrouvez encore avec vous dans les quartiers. Bon, je me demande réellement qu'est-ce qui se passe dans ce milieu, parce qu'il va falloir qu'ils nous donnent plus de détails.
Merci Yaya. Je cite, c'est la référence, et puis ça a été l'article, la référence, je ne sais pas si c'est une référence, en tout cas c'est la référence de cette émission, je recite encore les articles de Vice qui rappellent, c'était connu de tous, l'implication par exemple du fils de feu Lansana Conté, c'est l'ancien président de la Guinée, Ousmane Conté, qui était impliqué également dans le trafic de drogue. On peut également citer, je le disais en début d'émission, la Guinée-Bissau et l'amiral de l'armée bissau-guinéenne, Boubo Natshuto, qui avait été arrêté en 2013 au large des côtes, dans une zone internationale par l'armée américaine. Il a passé 3 ans en prison avant de revenir en Guinée-Bissau. Alors, comment lutter contre le trafic de drogue, mais aussi la consommation de drogue en Afrique de l'Ouest ? Un petit chiffre quand même, on va écouter Makis et ensuite on écoutera Paul Aimé, mais un petit chiffre quand même, il faut savoir que plus de la moitié des toxicomanes en Afrique se trouvent en Afrique de l'Ouest. Alors que seuls 30% des Africains vivent dans cette partie du continent. Alors le fait que l'Afrique de l'Ouest soit une zone de transit a-t-elle accéléré la consommation ? Makis, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Makis, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous, Vous avez pris connaissance de l'article, vous avez compris qu'il fasse réagir comme ça?
Oui, j'ai lu en entier. Ben, moi, ce qui m'agace un peu pour l'instant, je ne peux pas accuser Ahmed Bakayoko parce que dans la mesure, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Ben, il a dit hier qu'il porterait plainte. J'espère qu'il va porter plainte. Et là, moi, je le soutiens pour ça, pour que tout soit clarifié.
Bien sûr.
Paradoxalement, ça, certains nous diront oui, on préfère la vente encore de drogue que de tuer. Bref. Maintenant, ce que moi je veux dire, ce qui m'inquiète, c'est nos écoles. Même les écoles élites en Côte d'Ivoire sont gangrénées par la vente et la consommation de drogue. Stéphanie, ça c'est regrettable. Les écoles d'élite qui faisaient la référence sur les beaux jours de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est des élèves qui vendent la drogue. Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'en procurer? Mais soit l'État a failli, soit l'État est complice. Moi, je pose la question. Maintenant, ce qui est étonnant dans l'enquête, les journalistes ont bien dit qu'il y a eu des témoins qui ont nommé M. le ministre. Ah, cette partie-là, à moins qu'ils aient menti,
ils évoquent, alors les témoins sont anonymes, bon, on connaît le principe de la protection des sources, ils évoquent hein, des chargés d'ambassade à l'ambassade américaine, ils évoquent un travailleur sexuel d'ailleurs aussi.
Il y a quelque chose qui est quand même bizarre dans l'enquête. Vous ne voyez pas qu'il y a le ministre de l'Intérieur, enfin, de la Communication qui a donné l'autorisation. Étant donné que le ministre de la Communication donne l'autorisation, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le Premier ministre, ils doivent savoir qu'il y a une enquête qui est menée dans le pays.
Ils étaient plutôt informés, donc, d'ailleurs, quand vous lisez l'article, à un moment, les journalistes disent « voilà, on a vu un petit micro apparaître sur notre téléphone, on a compris, sous-entendu, qu'on était sur écoute. »
Ils étaient pistés. Mais si les autorités, parce que comme je l'ai dit, moi je n'accuse pas ou je ne nomme pas Ahmed. Si l'État ivoirien ne se reproche rien, pourquoi est-ce que pistés, les journalistes à qui vous avez donné l'accréditation? Je ne comprends pas. Vous voyez, Stéphanie, le problème c'est l'Afrique de l'Ouest tout entier. Nous, on a un problème. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis opposé au pouvoir Ouattara, mais je ne vais pas l'accuser à tort et à raison. Mais quand vous entendez les gens, par fanatisme, ils essaient de défendre. Pour l'instant, il n'est pas l'heure d'accuser ni de défendre, monsieur le ministre. Mais il faut reconnaître que nos gouvernants, ils sont pour quelque chose. Moi, c'est ce que je vais dire. Je voulais dire pardon, je ne vais pas monopoliser pour permettre à certaines personnes de passer. Parce qu'avec cette histoire de dire je suis RHDP, je suis du Nord, je suis d'ici, il faut que je soutienne fermement ces décès de conneries. Il faudrait qu'on arrête ça. Soyons un peu lucides. Respectons quand même.
Merci.
Merci Stéphanie.
Merci à vous, Makis. On s'était un peu éloigné, mais on va revenir sur la question du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest. On va écouter. Je demande à Mamadou de patienter un peu, parce que Mamadou nous dit l'Afrique de l'Ouest a un problème très ancien avec le trafic de drogue. On connaît ces routes, effectivement, notamment dans le Sahara. Mais avant cela, on va au Togo retrouver Paul Aimé. Hop là, pardon. Voilà, Paul Aimé, bonjour. Est-ce que vous êtes là?
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Bonjour Paul Aimé, bienvenue dans le journal des auditeurs. Certains évoquaient la situation de la consommation de la drogue à Abidjan. Vous, chez vous, est-ce que vous avez observé que la drogue circulait plus, davantage?
Bon, en fait, pour moi, je ne suis pas bien dans ce domaine, mais je sais que l'Afrique de l'Ouest est une plaque tournante de trafic de drogue vers l'Europe. Donc, pour moi, je trouve que les frontières ouest-africaines sont trop poreuses. Du fait que les dirigeants eux-mêmes sont des narcotrafiquants, avec la bénédiction des États européens qui achètent cette cocaïne.
Vous venez faire une petite caricature, mon cher Paul, c'est pas tout à fait ça, mais bon, je vous laisse, allez-y.
Oui.
C'est pas les États européens qui achètent la drogue, on est bien d'accord,
Oui. Vous voyez, tout le temps, quand les dirigeants se déplacent en Europe pour des futilités, ce n'est pour rien. C'est à cause de ce trafic juteux. Quand la tête est malade, c'est tout le corps qui...
Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez, Paul? Parce que là, vous êtes en train de dire que les dirigeants eux-mêmes font du trafic de drogue. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Désolé.
Je n'ai pas à charlater. Et cela, c'est avec la bénédiction. Je pouvais dire que les polices de nos États aussi ont une grosse part de responsabilité dans ce domaine, du fait qu'elles sont passives ou inertes dans ce domaine. Et surtout que les responsables reçoivent des pots de vin de la part des narcotrafiquants. Je me rappelle, il y a quelques années, un Boeing avait atterri dans dans le désert saharien.
Au Mali, R-cocaïne, c'est la fameuse sous ATT d'ailleurs. On a accusé un peu, ben, on a accusé effectivement certains d'estimer que les autorités maliennes avaient été complices.
Voilà, vous voyez, maintenant vous voyez que.
Oui, je vois mieux, oui, c'est vrai.
J'ai raison de pointer du doigt les dirigeants. Donc, moi, je lance un défi à tous les dirigeants ouest africains. S'ils savent qu'ils ne font pas partie de ce trafic JT, alors qu'ils prennent des dispositions idoines pour stopper ce trafic de cocaïne vers l'Europe.
Prendre des dispositions.
Il faudrait aussi des moyens de lutte pour la consommation de nos jeunes qui s'emballent dans ce phénomène et après tout se retrouvent derrière les barreaux.
Bien sûr. Effectivement, très peu de centres de désintoxication dans cette région. Alors malheureusement, je vois le chronomètre défiler, on n'aura pas le temps de prendre Mamadou, je suis désolée parce que Mamadou, voilà, déjà, il voulait intervenir hier, il n'a pas pu. Un petit message d'IB sur WhatsApp qui dit, comme l'a dit Alexandre, beaucoup de corruption en Afrique et maintenant que la drogue dure est arrivée en Afrique, il sera difficile de la faire sortir. Et il dit ceci, IB, il dit non, il n'y a pas de prise en charge des toxicomanes, ils sont soignés traditionnellement par les familles. Je sais que parfois au Gabon, par exemple, on utilise la cérémonie d'Iboga pour permettre aux gens de sortir de la drogue et de l'alcool. Puis peut-être ce petit message d'Ibrahim aussi, qui attend au standard, il nous dit on ne peut pas attribuer ce trafic à une personne en particulier ou à un groupe de personnes, il faut comprendre la base du problème. Et Karim a dit ceci, la drogue est un fléau qui perdure depuis toujours, ce n'est pas ces accusations qui vont résoudre le problème. Voilà, c'est clair. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. Merci d'être au rendez-vous chaque jour du lundi au vendredi dans le journal des auditeurs. Vous le savez, le JDA, c'est votre émission. N'hésitez pas à continuer le débat, notamment sur les réseaux sociaux et notre page Facebook. On se retrouve demain, mercredi, pour une nouvelle édition du JDA. C'est le sujet du moment. Je vous propose de reparler des violences policières. Est-ce un phénomène mondial ? Et puis n'hésitez pas à vous inscrire en laissant un message sur le répondeur 33 1 55 07 58 05. Prenez soin de vous à l'écoute d'Africa Radio. À demain.